I'm turning now to the letter of Jude.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à présent dans l'épître de Jude et les deux derniers versets de l'épître, versets 24 et 25. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire comparaître sans tache et dans la joie en sa glorieuse présence. À Dieu, seul sage, notre Sauveur, soit gloire et magnificence, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Et notre sujet, c'est tenir Dieu en très haute estime. Et nous avons considéré cet épître de Jude, et nous en arrivons à cette doxologie très connue de Jude. C'est une doxologie de responsabilité qui souligne la nécessité d'avoir une très haute estime de Dieu dans l'adoration. Il devrait y avoir une très haute estime pour Dieu. Les gens de tout temps et en particulier de nos jours recherchent des nouveautés désespérément et les amènent dans l'adoration, dans le culte, dans la louange. Des choses superficielles, des divertissements. La variété, c'est l'essence de toute chose de nos jours, l'excitation, un style séculaire de musique. Les gens veulent la variété, des nouveautés et des lumières de partout. Mais ce n'est pas la méthode de l'Écriture. Considérer Dieu, le respecter, l'avoir en très haute estime et l'adorer. Notre but le plus grand est concentré sur Dieu et tout est là dans cette grande doxologie. Et nous allons considérer ceci aujourd'hui. Au verset 24, « Or à celui » et pour introduire simplement « Qui est celui » dans ce verset ?« Or à celui qui peut vous préserver de toute chute. » Et là commence le débat. C'est un débat qui n'est pas nécessaire. Mais certains débattent ici. À celui, beaucoup disent que c'est le dernier membre de la Trinité qui est mentionné avant cette doxologie, c'est Christ. Certains pensent que cette doxologie est adressée à Christ, le Fils éternel de Dieu, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Et ceux qui pensent que ceci parle de Christ en particulier soulignent qu'au verset 25, nous lisons « À Dieu seul sage, notre Sauveur. » Et ceci confirme cela. Mais pas nécessairement, parce que la doxologie de Paul, à la conclusion de son épître aux Romains, utilise un langage très similaire et il est clair que c'est adressé à Dieu le Père. Et dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 1, que je vais lire, vous avez l'un des trois exemples du Nouveau Testament où Dieu le Père est adressé comme étant Dieu notre Sauveur. Et clairement, ceci s'adresse au Père qui est mentionné. Ainsi, nous ne pouvons pas être sûrs. Est-ce que ceci s'adresse au Fils ou au Père? Et la réponse simple, c'est que c'est adressé à toute la Trinité et à chaque membre de la Trinité. Il n'y a pas de confusion entre la doxologie de Jude et de Paul, et nous en arrivons à cette grande déclaration qui nous appelle à prêter attention aux attributs de toute la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ces attributs sont vrais pour tous les membres de la Trinité. Ainsi, pour introduire, je vous invite à voir ces choses ainsi. C'est pour chaque membre de la Trinité, dans son entier. Ce n'est pas quelque chose sur lequel nous devons débattre. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Et j'aimerais vous amener plusieurs points ce matin, parce que ceci nous aide. Dans cette doxologie ici, il y a 8 bienfaits, 8 bienfaits et attributs de Dieu, qui sont de Dieu, qui font partie de Dieu, 8 points. Qui peuvent être rassemblés en 4 points. Dieu dans le passé, Dieu dans le présent, Dieu dans le futur et Dieu dans son éternité, ses attributs qui continuent. C'est plus simple que ce que nous pensons. Au verset 24, ceci nous rappelle l'œuvre de Dieu et nous y méditons dans notre cœur. Nous sommes sauvés, nous sommes venus au Seigneur, nous sommes ses enfants, Christ est venu et il a été élevé à la croix du calvaire pour nous. Et il a pris notre condamnation, notre péché. Et par sa grâce, par son œuvre, nous pouvons être pardonnés et sauvés. Il est crucifié pour nous, le Saint-Esprit a illuminé nos cœurs pour que nous puissions réaliser notre besoin de Christ. Et nous sommes venus à Christ dans la repentance et dans la foi. Et il nous a donné un cœur nouveau, une nouvelle compréhension, une nouvelle vie, une nouvelle destinée et l'œuvre de sanctification a commencé dans nos vies. Cette grande transformation qui sera complète quand nous mourrons, quand nous allons au ciel. Nous avons été appelés dans la famille des enfants de Dieu et nous réfléchissons à cela par la grâce de Dieu si nous avons été convertis à lui dans le passé et nous le remercions. Nous nous consacrons à lui et nous le remercions. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et je mentionne ceci pour commencer. Pour tenir Dieu en grande estime, nous nous souvenons de ce qu'il a fait dans l'histoire. En nous donnant le salut, la rédemption, quand Christ est venu, qu'il a fait cette œuvre d'expiation et son œuvre dans nos cœurs. Ensuite, nous considérons ce qu'il fait à présent, maintenant. Et c'est là ce que nous dit ce texte. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, lui nous garde. Il nous garde, comme notre traduction le dit, de toute chute, de tomber. La traduction est bonne, mais il y a un problème dans ce terme chute ou tomber. Qui peut vous préserver de toute chute? Si vous êtes comme moi, votre esprit immédiatement pense à une chute catastrophique et terrible, à l'apostasie, à l'incrédulité, à sombrer dans une voie rétrograde, indigne du Seigneur, une chute qui suggère quelque chose de terrible. Et dans ce sens-là, la traduction qui peut vous préserver de toute chute est un peu trop forte. Le problème n'est pas dans la traduction, mais dans la conclusion que nous en tirons. En grec, ce verbe signifie « trébucher ». Il peut vous préserver de trébucher. Et c'est là ce terme, ce qu'il a là à l'esprit, ce n'est pas une chute catastrophique, mais simplement trébucher. Ceci s'approche de termes équestres. Le cheval trébuche. Il ne tombe pas, le cavalier passe presque par-dessus, mais il s'accroche et il ne tombe pas. Même si le cheval trébuche, peut-être qu'il souffre, qu'il se fait mal, mais il ne tombe pas, il continue. Mais ne le faites pas trop souvent, parce que si vous trébuchez plusieurs fois, vous allez tomber. Et vous faites bien attention. Il faut éviter les chutes. Quand vous êtes sur un cheval, c'est là ce qui est à l'esprit dans ce verset, trébucher, c'est dangereux. Une personne qui trébuche et trébuche et trébuche, au bout d'un moment, elle tombe sans aucun doute dans le chemin spirituel. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, de trébucher, comment est-ce que vous pouvez éviter de trébucher dans la vie chrétienne? Votre ancienne nature est contre vous. Vous êtes converti, vous êtes venu à Christ, vous avez une nouvelle nature. Mais oui, il y a encore le péché résiduel en vous et la chair et l'ancienne nature. La nouvelle nature sera supérieure et prendra le dessus et dominera. Mais l'ancienne nature est encore là avec ses suggestions, ses tentations, ses murmures. Elle est encore là. Comment est-ce que vous pouvez vivre sans trébucher? Et le diable est contre vous également. Nous disons, le diable, l'ennemi de nos âmes, Mais ce n'est pas simplement le diable, c'est le diable et ses démons. Nous pouvons penser ainsi que à tout moment, vous avez des milliers de démons qui vous regardent, qui cherchent une occasion, qui cherchent une occasion pour vous faire trébucher, pour vous faire tomber si c'est possible. Ainsi, vous aurez des tentations sur votre chemin. Et dans ce monde de péché, vous êtes entouré par tous les attraits du monde. Comment est-ce que vous pouvez éviter de chuter, de trébucher? Et vous perdez du temps et des mois et vous errez du chemin, vous perdez des années et vous gâchez des années si vous êtes rétrograde et que le Seigneur ne peut pas vous utiliser, que vous êtes loin de lui et que vous devenez de pire en pire. Comment éviter de trébucher? Chers amis, il y aura des gens ici, des amis, qui trébuchent, qui ne lisent pas la parole de Dieu ou qui lisent la parole de Dieu d'une manière machinale, sans prier, sans prendre ces choses au sérieux, qui ne prennent pas plaisir dans la parole, mais c'est comme une tâche difficile et ils ne passent pas beaucoup de temps à lire la parole, c'est très court chaque jour. Et ils négligent leur méditation personnelle. C'est trébucher, vous ne pouvez pas grandir. C'est un obstacle dans votre vie chrétienne. Il y a des gens présents ici, j'en suis sûre. Oh, je ne sais pas qui. Mais vous trébuchez dans la prière. Vous ne damenez pas les choses devant le Seigneur. Dans la prière, vous n'avez pas un moment de prière adéquat. Vous ne le louez pas. Vous ne cherchez pas sa bénédiction. Vous ne vous repentez pas correctement du péché. Vous ne vous consacrez pas à lui. Vous n'avez pas de ministère d'intercession pour d'autres personnes, fidèlement, pour les amener devant le Seigneur dans la prière. Vous ne l'aimez pas dans vos prières et vous n'avez pas toujours vos moments de méditation personnelle. C'est trébucher terriblement parce que un jour vous allez tomber sur votre chemin. Il y a des gens qui trébuchent et qui ne se contrôlent pas eux-mêmes. Ils pensent que tout va bien, mais ils ne se contrôlent pas eux-mêmes, ils ne se gouvernent pas eux-mêmes. Ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes avec l'aide de Dieu et par la prière. Et ainsi, ils regardent trop la télévision. Ils sont sujets à beaucoup de choses, de divertissements, des feuilletons et des choses à la télévision et des loisirs et des divertissements. Et ils n'arrivent pas à mettre ces choses de côté. Toutes leurs priorités vont de travers et ils trébuchent de beaucoup de manières. Il y a beaucoup de manières de trébucher, chers amis. Certains trébuchent dans le témoignage. Ils ne témoignent jamais. Ils disent peut-être qu'ils sont embarrassés, qu'ils sont timides et que c'est difficile. Et ainsi, ils ne témoignent pas du tout. C'est trébucher. Et c'est presque comme si vous tombiez et vous devez voir ces choses ainsi. Il y a certaines personnes qui gardent cette mauvaise humeur, ces mauvaises paroles de temps en temps. Et ceci ressort constamment. Et au lieu de combattre ces choses, de les amener au Seigneur dans la prière, de les combattre réellement par l'aide de Dieu pour les vaincre, ils laissent ces choses et ils trébuchent chaque jour. Peut-être toutes les 5 minutes. Et leur témoignage au travail n'est pas bon devant les enfants, devant leur famille, de même. Et il y a ceux qui trébuchent à cause de leur apparence. J'ai vu des gens qui semblent être venus au Seigneur, mais ils passent tant de temps, d'argent pour leur apparence et pour eux-mêmes et pour changer leur style de coiffure et d'habillement constamment. Et tant d'heures à la gym pour avoir une bonne apparence. Ils ont trébuché, c'est un piège pour eux. Vos démons personnels qui vous sont assignés, ils rigolent, ils se moquent de vous parce qu'ils ont cette corde et ils vous tiennent. Je suis désolée si ceci a l'air négatif, mais ce sont des choses qui semblent petites, mais ce sont des choses qui vous font trébucher, qui vous empêchent de progresser sur votre chemin spirituel. Certaines personnes, oh, j'ai pitié d'eux, sont complètement entourées, surmontées par la tristesse. Oh, je dis ceci en faisant bien attention parce qu'il y a ceux qui sont dans une situation difficile et qui sont dans la dépression, mais parfois la tristesse est là parce que nous ne pensons pas réellement, nous pensons beaucoup à ces choses qui nous rendent tristes et nous ne voulons pas attirer nos pensées sur ces choses pour lesquelles nous devons remercier le Seigneur et nous réjouir. Et parfois, ceci, nous ne le contrôlons pas et nous trébuchons. Chers amis, quels sont mes obstacles? Qu'est-ce qui me fait trébucher? C'est là la vie chrétienne. Et nous devons prendre ces choses au sérieux. J'ai vu des gens qui servaient le Seigneur et qui ont été complètement gâchés par cet obstacle. L'avarice, la convoitise, une meilleure maison, une plus grosse maison, une meilleure voiture, une plus grosse voiture et quelque chose de meilleur, même en tant que chrétien. Et dès que le diable vous a attrapé avec ceci, en ayant votre satisfaction dans quelque chose de meilleur que ce dont vous avez besoin, et ceci devient un objectif qui est tellement important pour vous, alors il vous amène plus loin et plus loin et toujours plus loin, de manière à ce que, à présent, vous avez deux maîtres, Dieu et Mammon. « Oh, je crois que je suis sauvé, que je sers le Seigneur, mais je dois acquérir des choses de plus en plus et des biens. » Non, ceci n'est pas possible. Et nous trébuchons. Et notre vie spirituelle peut être paralysée par ces choses. Parfois, et je dis ceci avec beaucoup de douceur, vous avez un jeune couple et vous savez quelle est leur chute et où ils trébuchent? Leur premier bébé. Tout d'un coup, leur style de vie change. Ils ne sont plus dans la maison de Dieu. Ils ne viennent plus. Ils ne servent plus le Seigneur. Ils n'ont plus de priorité. Et le bébé qui est arrivé dans la maison, c'est un trésor. Mais c'est pour eux tout, tout dans leur vie. Ils dominent tout. Et dans toute leur vie, dans tous les aspects de leur vie, tout est changé. Et vous trébuchez. Bien sûr, vous devez prendre bien soin de votre famille et de bons parents et être responsable, plein d'amour. Mais parfois, vous voyez que les gens trébuchent et ils sont complètement sans fruit, sans priorité, des chrétiens sans espoir. Ainsi, nous devons veiller parce que nous avons tendance à chuter et à trébucher. Pas seulement un péché, mais quelque chose qui est précieux et qui nous amène à chuter. Et le diable essaye aussi d'amener des idoles dans notre vie qui nous font chuter. Oh, j'ai mentionné suffisamment d'exemples, j'en suis sûre, mais considérez le texte. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute, de trébucher, vous pouvez être gardé, préservé de la chute si nous prions. Alors Dieu va mettre en nous un désir fort d'éviter de tomber et de trébucher. Et Christ, par son esprit, va œuvrer dans notre cœur. Et alors nous allons haïr ces obstacles. Nous allons faire attention, veiller et les remarquer. Et lui va nous donner la force et le désir de surmonter ces choses. Et la victoire, il va nous donner cette haine pour ces choses qui sont péchées, qui sont mauvaises. Il va nous donner une crainte sainte de ces obstacles et il va nous aider. Quand nous devons combattre quelque chose, une situation dans laquelle nous sommes, il va augmenter notre foi et nous donner la force. Or, à celui qui peut vous préserver de constamment trébucher et de tomber en réponse à vos prières, et il va vous rendre vigilant et fort. Il va vous donner de meilleurs goûts, de meilleurs désirs. Et priez pour ces choses, chers amis. Il peut le faire et il peut nous faire surmonter ces choses, ces mille et un obstacles que nous aurons sur notre chemin autrement. Ainsi, nous nous souvenons de ce que le Seigneur a fait et nous l'honorons et nous pensons à ce que le Seigneur peut faire pour nous jour après jour et nous combattons contre le péché. Et à présent, nous pensons à l'avenir. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire comparaître sans tâche et dans la joie en sa glorieuse présence. L'œuvre de la sanctification dans notre vie est essentielle. Mais l'œuvre que le Seigneur fait à la fin de notre vie, quand il nous transforme complètement et qu'il fait de nous des gens sans faute, sans tache, pour nous présenter saints, irréprochables, sans tache, dans sa présence. Cette transformation finale, ce que lui va faire, et il nous présente devant la cour, c'est là le langage de ces termes, de vous faire comparaître sans tache. Imaginez cette illustration, une cour royale au Moyen-Âge ou il y a bien longtemps, où quelqu'un allait être introduit devant le roi et amené par une procédure élaborée et amené devant le roi et recommandé au roi. Oh, c'est une illustration de ce qui va se passer au jour dernier, quand vous et moi nous allons aller dans la gloire et que nous sommes entièrement purifiés de tout péché, de toute mauvaise chose, et que nous sommes glorifiés devant lui et que nous verrons Christ tel qu'il est, notre Sauveur ressuscité, glorifié, et nous allons ressentir, comme c'est impossible de ressentir sur cette terre, la présence, la sainteté, la majesté de Dieu. Nous serons introduits dans sa présence et présentés et recommandés à lui. Même nous, des pécheurs pauvres, si faibles et qui errent si facilement. Oh, dit Jude, ceci est une œuvre de Dieu, toute gloire, tout honneur lui est rendu. Pensez à son œuvre de rédemption, il va vous faire comparaître un jour sans faute, sans tache dans sa présence. Et c'est là l'exhortation de Jude. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire comparaître sans tache et dans la joie en sa glorieuse présence. Il y a deux superlatifs ici. Une joie super abondante au-delà de toute mesure. Une joie profonde, constante. Et nous nous réjouissons. Ce qu'il a fait, ce qu'il fait à présent nous montre ce qu'il va faire dans les noces royales à la fin. Et au verset 25, ceci est extraordinaire. À Dieu, seul sage notre Sauveur, soit gloire et magnificence, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Je ne sais pas comment décrire ceci. Ceci, c'est une doxologie. En termes humains, d'intelligence extraordinaire et de profondeur extraordinaire. Mais ce que Jude ne fait pas, comme Paul ne fait pas non plus, c'est doxologie de l'Épître aux Romains, où il y a la gloire à Dieu, ce qu'il ne fait pas, c'est simplement utiliser des paroles par hasard, des paroles qui ont la même signification. Ne sous-estimez jamais ces doxologies. C'est une déclaration profonde et si intelligente qui recouvre des aspects spécifiques de la gloire et de la magnificence de Dieu. Chaque terme devrait être examiné pour avoir toute la profondeur de cette déclaration. Mais c'est une analyse systématique de l'être de Dieu, non pas en termes d'attributs. Nous avons étudié ces attributs séparément, mais en termes du genre d'attributs que Dieu possède. Et vous allez comprendre ceci alors que je commence. À Dieu seul sage. À Dieu seul sage. Dieu est vu ici du point de vue de son intelligence, sa connaissance, sa sagesse, son intelligence. Vous pouvez parler de sa puissance, etc., de sa majesté, sa domination. Oui, non, ceci est séparé. Ceci considère Dieu en termes de connaissance, d'intelligence, de sagesse. Un Dieu seul sage. Pourquoi seul? Parce qu'il y a un seul Dieu. Trois personnes d'une manière mystérieuse dans la Trinité, également divines, et cependant une seule essence, une trinité, mais seule aussi parce que aucun des êtres créés par Dieu n'est sage comme lui est sage. Les anges aux cieux n'ont pas sa sagesse infinie. Les êtres humains, bien sûr, n'ont pas sa sagesse. Même les hommes les plus intelligents ne peuvent pas connaître l'avenir et ne comprennent pas entièrement l'implication des choses qu'ils font ou les conséquences de ses stratégies ou de ce qu'il fait. Les gens font de leur mieux, même les plus intelligents. Il n'y a pas de sagesse qui peut être comparée à celle de Dieu qui est parfaite, infaillible. C'est pour cela que l'explication divine dans la Bible du monde, de l'humanité, de comment nous avons été créés, notre nature, comment nous opérons, comment nous fonctionnons, ce qui nous influence et nos faiblesses, toute la connaissance humaine, rien ne peut être comparé avec la précision et la perfection de la parole de Dieu. La sagesse de Dieu est suprême et parfaite et sans faute. Ainsi, nous commençons ici à Dieu seul sage, la sagesse du Dieu Tout-Puissant, au-delà de toute critique, au-delà de tout débat, infaillible, le plan de la rédemption de Dieu, le chemin du salut donné par Dieu, quand vous êtes sauvés, vous vous réjouissez en cela. Et ensuite, vous comprenez ces choses encore plus et vous réalisez la sagesse dans le plan du salut et vous réalisez que c'est le seul chemin par lequel un Dieu saint peut sauver l'homme. Et vous êtes émerveillé et vous voyez et comprenez sa profondeur. Il n'y a pas d'autre dessein pour l'humanité, pas d'autre alternative à Dieu seul sage, toute connaissance. Infaillible intellectuellement, cette sagesse si profonde de Dieu. Et ensuite, le prochain terme, soit gloire, gloire. Ceci semble être la même chose que la magnificence, la force et la puissance. Mais il y a une distinction entre tous ces termes. Jude ici parle de la gloire de Dieu, sa dignité, son honneur. Ou si vous voulez, ceci parle de la valeur de Dieu, non pas sa puissance, non pas l'étendue de sa domination, mais sa valeur. Comment est-ce que nous pouvons illustrer cela? Imaginez que vous avez une petite voiture. C'est simplement une petite voiture qui ne vaut pas très cher. Et pour que cette voiture soit pas chère, ils ont utilisé des matériaux pas chers. Vous pensez que c'est une bonne voiture, mais elle a beaucoup de fautes. Et ça bouge beaucoup, les amortisseurs ne sont pas bons, et puis elle est tout le temps en panne peut-être. Vous voulez la garder pendant longtemps, mais elle commence à rouiller, etc. Elle est loin d'être parfaite. Elle n'est pas chère, mais ceci se voit bien. Oh, je ne dis pas que vous devriez acheter cette voiture. Mais comparez ceci à une Rolls-Royce, où dans tous ses aspects, ceci a l'air parfait. Vous ne pouvez pas l'entendre, son moteur est silencieux, et les amortisseurs marchent bien, c'est bien isolé, pas de bruit, vous n'entendez pas les choses de dehors, tout ce que vous regardez est beau, c'est d'une classe supérieure, d'une qualité supérieure, tout est si parfait, si beau. Vous ne pouvez pas comparer votre petite voiture avec une Rolls-Royce. La valeur est si différente. C'est une petite illustration. Mais si vous regardez au plus grand des hommes et des femmes, des plus talentueux, des plus puissants, et ensuite vous regardez à Dieu, et c'est là ce que veut dire la gloire, la valeur, la dignité, l'honneur, la qualité. C'est là l'idée ici de la gloire. Nous pensons ici à quelque chose de bien au-delà de tout ce que nous voyons dans ce monde. Est-ce que vous voulez une alliance qui est faite d'airain ou une alliance faite d'or? Peut-être un enfant ne verrait pas la différence, mais vous êtes un adulte et vous voyez la différence. C'est la qualité, la valeur. Quand Jude donne la gloire à Dieu ici. À Dieu seul sage, notre Sauveur, soit gloire, la gloire. Quand vous pensez à Dieu, pensez la Rolls-Royce et même des millions de fois plus grand, la perfection, sans faute, sans tache, merveilleux, une bonté extraordinaire, éternelle, la puissance, l'amour de Dieu, au-delà de tout ce qui existe dans ce monde. Dieu, la gloire de Dieu, notre Sauveur. Et la magnificence, la majesté. Oh, je dois accélérer, notre temps est presque passé. Quelle est la différence entre la gloire et la majesté, la magnificence, la majesté? C'est la grandeur dans un autre sens. Ceci parle du droit de Dieu, les droits de Dieu. Nous avons vu sa qualité, sa valeur et à présent ses droits. Nous avons une image ici dans les dynasties royales. Si une personne faisait partie d'une famille royale, de sang royal, si vous viviez dans un temps où il y avait des rois et des reines qui dominaient, qui régnaient, vous auriez dit « Oh, cette personne a le droit de régner. » Oh, c'est un drôle de droit, bien sûr, parce que quelques générations auparavant, la première personne dans cette famille a peut-être acquis ceci par une conquête violente. Mais à présent, la famille a le droit d'être roi, reine. Et l'idée est là, à notre esprit, Dieu est roi. Il a le droit de dominer. Dans une démocratie, votre gouvernement règne, si je peux dire, par simplement une majorité, grâce à une majorité. La plupart des gens ont voté pour ce parti, mais beaucoup de gens n'ont pas voté pour ce parti. Comment est-ce que ceci peut être comparé au règne de Dieu? Oh non, ce n'est pas une démocratie, c'est son droit absolu de régner, parce qu'il a tout créé. C'est son dessein. C'est sa puissance, c'est sa création, son œuvre. Et nous voyons ici non seulement la valeur de Dieu, mais le droit de Dieu. Quand nous parlons de sa majesté, sa magnificence, lui seul a le droit de régner comme Christ, qui a tous les droits d'être le roi des rois, le seigneur des seigneurs, notre sauveur. Il a payé le prix. Pour avoir ce droit, si vous voulez, il a ce droit doublement. Il est mort pour nous, il a souffert pour nous. Mais pensez un peu au droit de Dieu, l'autorité de Dieu. Il est la seule cause de toute chose. Ainsi, à Dieu seul sage, et il est le seul qui est sage, notre Sauveur soit gloire, valeur, majesté, honneur, magnificence, force, domination. En quoi est-ce que ceci est différent? La domination de Dieu, c'est l'exercice constant de sa puissance. Ces choses sont toutes différentes, ces termes sont différents. Sa valeur, ses droits et à présent, l'exercice constant de sa puissance. Mais Dieu ne semble pas avoir constamment la puissance. Oh oui, il a la puissance constamment. Et par sa volonté qui permet des choses, les gens se rebellent contre lui dans tout le monde entier. Les gens vont par leur propre chemin. Ils refusent de l'adorer comme tous nous l'avons fait dans le passé. Mais son règne est toujours encore évident. Parce que par son règne, nous sommes nés. Par son règne, nous avons eu la vie. Et par son règne, notre vie sera retirée. Et il est patient. Il écrit chacun de nos péchés, chacune de nos secondes dans notre vie et nous devrons rendre compte, chacun d'entre nous. Son règne est suprême au-dessus de tout ce que nous pensons être notre liberté rebelle. Non, il règne constamment et au-dessus de chacun d'entre nous, constamment. Sa domination, quelle est la différence entre sa domination, l'exercice constant de sa puissance et ce qui vient après cela. La gloire, la majesté, la domination et la puissance. La force, est-ce que ceci est différent? Oui, ce dernier terme, la force, se réfère à l'intensité de sa puissance. La domination, c'est l'étendue de sa toute-puissance. Et le dernier terme, c'est l'intensité de sa puissance. si Dieu choisit de faire tomber un empire pour qu'il s'écroule par sa domination et que cet empire est puissant et une telle force tyrannique sur ses sujets, peu importe la puissance de cet empire qui semble être si étendu, si enracinée, la puissance de Dieu est si intense, elle va simplement faire tomber cet empire. Les historiens essayent toujours encore de comprendre la chute de l'empire soviétique de notre temps. Ils peuvent se dire, oh, cette personne, Gorbatchev, est arrivée, et cette autre personne, ils peuvent essayer de comprendre la chronologie des événements, mais quand ils y réfléchissent, ils se demandent, comment est-ce que cette puissance soudainement a disparu? Toute cette structure de tyrannie est soudainement tombée. Comment est-ce que ceci s'est passé? Soudainement, la vie est sortie de cet empire. C'est un acte divin, chers amis. Cet acte divin, l'intensité mystérieuse de sa puissance. Des entreprises s'élèvent et tombent, des empires s'élèvent et tombent. Il y a un aspect différent dans chaque parole de ce verset. À Dieu seul sage, soit gloire, la valeur et la majesté, le droit, l'autorité et la domination, l'étendue de sa force, de sa puissance et la puissance, la force, l'intensité de sa puissance invincible. Et maintenant et dans tous les siècles, toujours, constamment. Oh, considérez ces paroles lentement dans votre méditation personnelle et réfléchissez à la majesté, à la magnificence, à la sainteté de Dieu, à l'amour de Dieu. C'est là le Dieu qui peut nous garder, vous et moi, instant après instant, de tomber et de trébucher. Et il nous garde de nous blesser. Oh, Jude dit à Dieu, soit la gloire,